Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, 10 ans qui ébranlèrent le monde. Bonjour Gérard Courtois.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur éditorial et chroniqueur politique au journal Le Monde. Vous avez signé une chronique hebdomadaire dans ce journal pendant un petit peu plus de 10 ans et vous en avez tiré un recueil intitulé « La fin du monde » qui vient d'être publié chez Perrin dans la collection Tempus. Alors dans ces temps d'emballement permanent où l'immédiateté l'emporte sur l'analyse, où la polémique devient le maître étalon du journalisme, il est bon de temps en temps de décélérer, de faire une pause, ce à quoi nous invite votre recueil de chroniques. 10 années donc à regarder vivre les acteurs de la 5e République, ou plutôt à les regarder suffoquer. Hormis l'édifice des institutions, écrivez-vous dans le chapitre introductif intitulé « Fracture sociale, dépression démocratique ». Hormis cet édifice, le monde politique, dites-vous, est sans dessus-dessous, sa géographie bouleversée, son système disloqué. Pis, le lien entre les citoyens et les dirigeants s'est dangereusement distendu, pour ne pas dire disloqué. Pourtant, les tentatives de colmatage n'ont pas manqué au cours de la décennie pour redonner du lustre à la démocratie représentative. Loi de transparence de la vie publique et de moralisation de la politique, loi sur le non-cumul des mandats, extension du domaine des primaires lors de la dernière présidentielle, renouvellement du personnel politique. Et pourtant, rien n'y fait, le phénomène de cassure apparaît de plus en plus irréversible. Dans votre ultime chronique pour Le Monde le 26 mars dernier, vous faisiez ce constat. Un monde ancien s'est effacé, un nouveau tarde à naître. Le monde actuel est énigmatique, voire périlleux, éruptif après avoir été disruptif. Alors faut-il seulement s'en inquiéter ou bien y a-t-il malgré tout quelques raisons de s'en réjouir ? 10 ans qui ébranlèrent le monde, c'est donc le thème de cette émission. En votre compagnie, Gérard Courtois, si je fais le calcul, en un peu plus de 10 ans, vous avez signé environ 600 chroniques hebdomadaires. Vous en avez gardé une centaine, 102 précisément, si j'ai bien fait le compte. Sur quels critères est-ce que vous avez choisi d'éliminer les 500 autres ?
Pour être honnête, il y avait un premier critère assez simple. Quand on fait une chronique hebdomadaire, l'actualité n'a pas du talent toutes les semaines, le chroniqueur encore moins. Donc ça permet déjà d'en écarter un bon paquet qui, à la relecture, était trop daté, trop technique, trop précis sur tel ou tel dossier du moment.
Certaines aussi pour lesquelles, avec le temps, vous avez fait le constat que vous étiez peut-être un peu trompé ?
Non, celles-là, je les ai gardées. Enfin, j'en ai gardé plusieurs. En réalité, le critère, il était très simple. C'est que j'ai gardé uniquement les chroniques strictement politiques pour refaire, au fond, le film politique de ces 10 années. Et ce qui est assez troublant, en prenant un tout petit peu de distance, c'est de se dire, au fond, ce qu'on a écrit en 2008, 2009, 2010 paraît extraordinairement daté aujourd'hui. Et en même temps, tous les ingrédients de la crise qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre à travers les gilets jaunes et d'autres phénomènes étaient déjà très présents, explicites, documentés il y a 10 ans.
Oui, parce que c'est ce qui est intéressant effectivement à la lecture de ces chroniques quand on le fait dans l'ordre chronologique, c'est que ça documente assez précisément ce processus de décomposition qui existe dans la relation qu'entretiennent les gouvernants avec les gouvernés, avec donc, comme vous le disiez, comme point d'orgue provisoire, bien entendu, le mouvement des gilets jaunes.
Ici, personne ne dit avoir voté pour Emmanuel Macron. Hubert a voté pour Marine Le Pen au premier tour et Blanc au second. Alors cet après-midi, accompagné de sa fille et de sa petite-fille, il est venu défendre ses intérêts car il se sent délaissé par les corps intermédiaires.
Les syndicats n'ont pas pu mobiliser depuis longtemps. Les partis politiques ne fédèrent plus, malheureusement. Donc aujourd'hui, la base, grâce aux réseaux sociaux, on a monté un mouvement qui risque de durer très longtemps. Là, on est parti pour que ça dure.
Valérie n'avait jamais manifesté, refuse de dire pour qui elle a voté lors de la présidentielle. Mais avec 1300 euros par mois, cette aide-soignante ne parvient plus à joindre les deux bouts.
Tout le monde est révolté. Le gouvernement, il pense que finalement, un petit peu aux riches, quoi, finalement. Donc, les petits salaires, les ouvriers, on est lésés, quoi.
Voilà, reportage de TF1 en novembre dernier sur le pont de Tancarville. Les gilets jaunes, Gérard Courtois, est-ce que c'est ce qui symbolise le mieux, peut-être, ce processus de décomposition dans la relation gouvernant-gouverné ?
En tout cas, c'en est une manifestation spectaculaire. C'est la crise, au fond, la plus longue, la plus inédite, et ce qui est problématique, à mon avis, pour le pouvoir exécutif et pour les responsables politiques, c'est la plus insaisissable qu'ait connue la 5e République depuis 60 ans. Et elle en a connu des crises, et de majeures. Mais je mettrai à part mai 68, qui est vraiment une crise très particulière, mais toutes les autres, c'était des crises qui se déclenchaient sur des initiatives politiques, des projets de loi, des réformes, dans lesquels, même quand la situation paraissait totalement bloquée, il y avait des interlocuteurs. Il y avait des interlocuteurs syndicaux ou des alternatives politiques. Et là, on est dans une crise sans interlocuteurs avec lesquels le pouvoir puisse engager quelque chose qui ressemble à une discussion, une négociation de sortie de crise, comme ça a toujours, très souvent, le plus souvent été le cas auparavant. Et donc, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de débouché politique apparent, si ce n'est Macron dehors. Et donc, c'est à ce titre-là à la fois la plus symptomatique d'une immense défiance qui s'est sédimentée, accumulée depuis des années, et pas seulement depuis 10 ans, hein, c'est plus ancien que ça. Il y a une bonne vingtaine d'années de défiance politique à l'égard des gouvernants. Et donc, à mon sens, la plus périlleuse pour le pouvoir.
À la différence près, écriviez-vous d'ailleurs dans une chronique le boomerang de la défiance en décembre dernier, Gérard Courtois, c'est que les prédécesseurs d'Emmanuel Macron disposaient d'une sorte de filet de sécurité qui les protégeait un peu. Or, vous dites que désormais, rien de tel aujourd'hui, le roi est nu, trop seul, très vulnérable, il ne peut plus bénéficier de la protection à la fois des institutions, si ça peut-être ça reste encore, mais de son propre camp.
Alors, il bénéficie de la protection des institutions, ça reste une donnée fondamentale du paysage politique, ça, bon. En revanche, il ne dispose plus, et ça c'est pas Macron lui-même, c'est depuis 2007, depuis l'entrée en scène de Sarkozy, dans le cadre du quinquennat, il ne dispose plus soit du disjoncteur, soit du paratonnerre du Premier ministre. Le Premier ministre est devenu, c'est le mot de Sarkozy, mais c'est un mot juste, en réalité cruel, est devenu un collaborateur. On l'a vu avec Fillon, on l'a vu avec Jean-Marc Ayrault, on l'a vu un peu moins, parce qu'il avait plus de velléité ou de volonté de s'affirmer avec Manuel Valls, mais on le voit avec Édouard Philippe aujourd'hui. Le Premier ministre est dans le sillage plus que jamais du fait du quinquennat, du fait que les législatives sont dans l'ombre portée de la présidentielle. Le Premier ministre, il est formellement le patron de la majorité, mais réellement c'est le président qui assume tout et qui encaisse tout.
Et pourtant, Gérard Courtois, le quinquennat avait été imaginé, alors ça date de Jacques Chirac, mais on va dire que celui qui l'a véritablement inauguré, c'est Nicolas Sarkozy, il avait été imaginé comme une réponse, justement, à cette crise.
Absolument.
Alors pourquoi ça n'a pas marché? Visiblement, en tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça aurait dû fonctionner.
Alors, le quinquennat lui-même, il a été pensé par Lionel Jospin et Valéry Giscard d'Estaing, prenant en étau ou en tenaille Jacques Chirac, qui n'était pas particulièrement favorable, dans un esprit de modernisation des institutions, du rythme de la vie politique, permettre aux citoyens, aux électeurs de se prononcer plus rapidement sur l'action gouvernementale. Mais il n'était pas prévu initialement d'inverser le calendrier. Et ça a tout changé. Parce que dans le calendrier tel qu'il aurait dû se dérouler en 2002, les élections législatives seraient intervenues 2 mois avant la présidentielle. Lionel Jospin, faisant un choix tout à fait baroque à mon sens, puisqu'il était lui-même, 10 ans avant, il avait écrit des choses plutôt en faveur d'un régime parlementariste, a inversé le calendrier en se disant sur la présidentielle, je vais gagner parce que Chirac est très mauvais, usé, vieux et fatigué, et ensuite j'aurai une majorité à ma main. Et ça a complètement bouleversé la logique même, à mon sens, des institutions telles qu'elles existaient depuis 58, ou en tout cas depuis 62.
Oui, mais il y a quelque chose, moi, que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est-à-dire que tout le monde, ou presque, fait ce constat que l'inversion du calendrier a considérablement modifié la répartition des pouvoirs au sein de l'exécutif, pourquoi ne pas réinverser ce calendrier? Pourquoi est-ce que cette solution-là, elle n'est pas imaginée?
Parce que les rythmes électoraux, ils sont fixés par la Constitution. Donc maintenant que la présidentielle est intervenue avant, à partir de 2007, il faudrait une décision politique majeure qui réinverserait l'ordre des choses et le rapport de force entre le Parlement et le Premier ministre, d'un côté et le président de l'autre. Et je vois pas un président se priver de cette arme qu'il a maintenant entre les mains, arme à double tranchant.
Oui, parce que c'est terrible, parce qu'à la fois ils en souffrent et à la fois ça les satisfait.
Ça l'expose d'autant plus, le président. Et quand on a un président, soit comme Nicolas Sarkozy, soit comme Emmanuel Macron, qui est obsédé d'attirer à lui toute la lumière, et il attire à lui aussi toute la foudre.
Alors on voit bien à quel point les institutions peuvent faire les hommes, mais les hommes ont aussi dans leur pratique du pouvoir un impact sur les institutions. Ça a été particulièrement le cas pour Nicolas Sarkozy.
Et maintenant, faisons notre joli métier, comme disait Nicolas Sarkozy au moment de ses premiers déboires conjugaux, en promettant de ne plus exposer sa vie privée, en jurant qu'on ne l'y reprendrait plus. C'était il y a 2 ans, il y a 1 siècle, avant son divorce et son nouveau célibat. Nicolas Sarkozy a donc choisi de s'exhiber. Le mot n'est pas trop fort, puisqu'une dizaine de photographes étaient là en terrain découvert et que les clichés vont faire la une de plusieurs magazines à paraître cette semaine. Le président s'affiche aux côtés de l'ex-top model et chanteuse Carla Bruni. Le site web de l'Express a été le premier à donner la nouvelle hier soir. Le directeur de la rédaction de l'Express, Christophe Barbier.
Je suis un ami de Carla, mais elle ne m'avait rien dit. Je ne lui avais rien demandé jusqu'à dimanche. Comme nous mettions en ligne sur le site de l'Express l'information, il m'a semblé normal que je l'appelle et que je lui explique un peu la teneur de notre papier. Elle a, à cette occasion, confirmé la relation et elle m'a signalé que la publicité faite autour de cette histoire ne la gênait pas à partir du moment où maintenant, en effet, ça allait être une aventure, une histoire d'amour public.
Voilà, extrait du journal de France Inter du 17 décembre 2007. À propos de cette escapade à Euro Disney pour officialiser cette liaison entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, vous avez signé une chronique, c'est d'ailleurs celle qui ouvre votre recueil Gérard Courtois, dans laquelle vous écriviez ceci. En quelques mois, Nicolas Sarkozy a transformé la fonction présidentielle plus sûrement que tous ses prédécesseurs et toutes les révisions constitutionnelles depuis près d'un demi-siècle. Il en a fait exploser l'image, la pratique et les valeurs. Est-ce que vous considérez que depuis Nicolas Sarkozy, la fonction présidentielle, et malgré les tentatives de s'en démarquer, a été durablement abîmée?
Elle a été... Alors, Nicolas Sarkozy l'a, si je puis dire, trivialisée. Et pas seulement par la mise en scène de ses relations conjugales, amoureuses, divorces, remariages, etc. Mais aussi par quelques sorties un peu intempestives. On s'en souvient, y compris au Salon de l'Agriculture, quelques mois plus tard. François Hollande a voulu faire exactement l'inverse. Il a annoncé qu'il serait un président normal, qui ne mettrait pas sa vie privée sur la place publique, etc., etc. Et il a été rattrapé par la patrouille de manière assez pathétique, avec sa relation avec Julie Gayet, ses relations tempétueuses avec sa compagne précédente, Valérie Trier-Weller. Bon, et... Alors, Emmanuel Macron a construit une autre image, mais est-ce que... de toute façon, je crois que le système de communication politique, le système de communication médiatique qui s'est développé depuis 10 ans, ne permettrait plus, me semble-t-il, de revenir à une présidence sacralisée, distante, majestueuse, modèle de Gaulle jusqu'à Chirac compris. Et l'un des plus beaux exemples étant celui de François Mitterrand, bien entendu, qui avait écrit sur la Ve République et les institutions des choses définitives et qui en a été le premier bénéficiaire, y compris dans sa vie privée.
Mais dans ce cas, Gérard Courtois, si on fait ce constat qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'accélération du temps de l'information, la présence, l'omniprésence des réseaux sociaux, et puis ce quinquennat qui a aussi réduit le temps politique, et de voir à quel point cela expose, et cela expose de manière très problématique le président de la République, est-ce qu'il ne faut pas pousser la logique plus loin et se dire que le problème, c'est peut-être justement le président de la République, cette fonction-là, et que c'est peut-être le cœur des dysfonctionnements de la démocratie représentative aujourd'hui.
Moi, je suis prêt à vous suivre sur ce terrain, avec juste une objection. Quand on a donné un droit politique aux citoyens, il est extrêmement rare qu'ils acceptent qu'on le leur reprenne.
Et dans toutes les... D'autant qu'ils votent beaucoup pour la présidentielle.
C'est la dernière élection qui leur paraît structurante et importante, c'est la dernière élection pour laquelle les taux d'abstention ne sont pas abyssaux. Donc, moi, c'est l'interrogation que j'ai, ou la question que j'ai posée à tout sorte de partisan d'un changement de régime, d'une 6e République, de l'abolition de cette élection présidentielle qui à la fois surplombe, structure et quelque part bloque le système. Ça, là-dessus, il y a des facteurs bloquants dans l'élection présidentielle, plusieurs. Mais je ne vois pas qui expliquerait aux Français, avec une chance d'être approuvé, depuis 65, vous élisez le président de la République, ben, finalement, c'est quelque chose qui complique le jeu politique, donc on va vous enlever ce droit. Et que ce soit autrefois Arnaud Montebourg ou Jean-Luc Mélenchon ou d'autres partisans de changer le système, y compris Montebourg, qui finalement, après avoir dit on supprime la fonction présidentielle, enfin l'élection présidentielle au suffrage universel, au bout du compte avait dit il faut la garder parce que je sais pas comment, par quoi on la remplace.
Bon, alors c'est peut-être pas du côté des grands équilibres institutionnels qu'il faut aller chercher une solution à cette crise profonde, c'est peut-être davantage du côté des pratiques. Il y a eu beaucoup de tentatives après un certain nombre d'électrochocs, dont celui du mois de décembre, enfin des mois qui ont suivi le mois de décembre 2012.
Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Voilà, extrait très court de Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2012. Il est ministre du budget. La suite l'amènera à dire que finalement, il avait bien un compte à l'étranger. Ça a été un des grands électrochocs de ces 10 dernières années, on va dire, de ces 10-12 dernières années. Gérard Courtois, pour vous.
Je pense qu'il y en a eu deux. Des électrochocs au-delà des questions institutionnelles, des comportements politiques, etc. De l'affaissement ou de l'affaiblissement de la fonction elle-même, de la fonction présidentielle, je crois qu'il y a eu deux chocs. C'est la question de l'efficacité de l'action politique. Et ce sont des chocs qui sont anciens. Je veux dire, la question de l'efficacité, de la lutte contre le chômage, la méritocratie scolaire, du pouvoir d'achat, etc., c'est des choses qui remontent à 20 ans, 30 ans en arrière. Fracture sociale, c'était 95 Chirac, mais qui se sont aggravées lors des années de crise 2008-2016, on oublie que ça a été la plus grave crise économique depuis un siècle, et qu'elle a eu des effets très directs sur le pouvoir d'achat, le chômage, la dette, etc. Donc il y a eu la crise d'efficacité, puis la crise d'exemplarité. Et ça, c'est vraiment, au-delà des questions institutionnelles, c'est vraiment les deux ressort de cette défiance générale. L'exemplarité, même chose Cahuzac, mais il y a eu dans les années 90 toute une série de scandales politico-financiers touchant le PS, touchant Jacques Chirac et le RPR de l'époque, conduisant à la condamnation d'Alain Juppé, de Jacques Chirac lui-même après son deuxième mandat, et tout ça en dépit de lois très nombreuses pour moraliser, organiser le financement des campagnes, le financement des partis, prévoir un financement public, empêcher le financement par les entreprises privées, etc., etc. Tout ça conduit à quoi ? À aujourd'hui, si vous faites la liste des responsables politiques qui sont actuellement poursuivis par la justice, c'est juste impressionnant. Et qui vont, pour certains, faire l'objet de procès. Donc on a Nicolas Sarkozy, ancien président, François Fillon, ancien Premier ministre, Marine Le Pen, François Bayrou, fugace ministre de la Justice au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, et j'en oublie, parce que la liste est longue.
Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, Gérard Courtois, les lois et les dispositifs, on pourrait rajouter la création quand même, c'est spectaculaire, du parquet national financier, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, ça ne suffit pas à modifier en profondeur les comportements du monde politique ?
Je crois deux choses. Je crois que, un, l'élection présidentielle rend dingue tous les postulants, quels qu'ils soient, au sens clinique du terme. C'est une élection qui rend fou tous ceux qui s'y engagent. Et je crois aussi que la plupart des responsables politiques sont, malgré toutes les lois, malgré les poursuites judiciaires anciennes et actuelles, sont dans un coin de leur tête, il y a un sentiment d'impunité. Et dans la crise de confiance à l'égard des responsables politiques, c'est un ressort puissant. Vous connaissez l'enquête de Sciences Po annuelle sur la confiance en politique. Moi, je suis chaque année sidéré par les 80 ou 85% de Français, de mémoire, je cite, qui disent « les hommes politiques, les responsables politiques sont corrompus ». Ce qui est quand même hallucinant, parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est objectivement pas vrai. Mais il y a suffisamment de personnages emblématiques et importants du paysage politique qui... voilà, ont essayé de contourner la loi tout simplement pour que les Français pensent ça. Et c'est dévastateur.
Et on pense par exemple à un certain Alexandre Benalla, hein, dont Le Monde a évidemment beaucoup parlé, puisque c'est votre journal qui est à l'origine de la révélation de cette affaire. Et à son sujet, dans une de vos chroniques, vous dites, enfin en tout cas sur, plutôt sur l'impact que ça a pu avoir sur Emmanuel Macron, dites « Le nouveau monde dont il se voulait le chantre allait effacer un vieux monde politique vermoulu et discrédité, le retour de bâton en est d'autant plus violent. »
Il y a eu deux retours de bâton. Il y a eu, juste après l'élection, les trois ministres qui ont été obligés de démissionner un mois, partir un mois après avoir été nommés. Donc ça, ça a été une première entorse très lourde au principe d'exemplarité. En plus, François Bayrou était celui qui avait porté ce combat-là et qu'il avait fait partager à Emmanuel Macron dans le cadre de leur accord pendant la campagne. Donc, les Français se disent, bon, alors c'est monsieur propre, monsieur Bayrou, lui aussi, il a fait comme Madame Le Pen ou comme Jean-Luc Mélenchon, il a utilisé des assistants parlementaires européens pour financer son parti, pour financer sa campagne, ou ses campagnes. Et puis le deuxième choc, ça a été évidemment l'affaire Benalla. Et ce qui est, moi, ce que, j'avoue, ce qui me trouble beaucoup dans cette affaire, c'est que elle a déstabilisé la mécanique Macron. Jusqu'au mois de juillet 2018, alors, avec tous les griefs qui ont pu être faits, l'autoritarisme, l'arrogance, la trop grande assurance de lui-même, etc. Mais la mécanique mise en place par Emmanuel Macron après son élection fonctionnait à plein. Les réformes avançaient au pas de charge. Alors, dire c'est trop brutal, c'est trop ceci, il a méprisé les syndicats, il a oublié les élus locaux, très bien. Mais enfin, les réformes étaient votées, elles passaient, elles avançaient, réformes pour certaines réputées impossibles. Bien. Et ce grain de sable, pour une raison, j'avoue que j'ignore, on le saura sûrement un jour, a totalement enrayé cette mécanique, cette superbe mécanique, au sens, je dirais, automobile du terme.
Puisqu'on évoque avec vous aujourd'hui, Gérard Courtois, cette décennie, au sens un peu large, on remonte jusqu'au début des années Sarkozy, et parfois même un petit peu avant, mais pour essayer de comprendre à la fois les raisons de cette crise de la démocratie représentative et pourquoi les solutions qui ont été apportées ne semblent pas fonctionner. Il y a une loi importante au cours de cette décennie, c'est la loi sur le cumul des mandats. C'était en 2013. Vous écriviez ceci, j'aimerais savoir si vous diriez la même chose aujourd'hui. Le cumul des mandats est le symptôme cruel de l'affaiblissement du rôle du Parlement. Pis, il contribue à l'accentuer. Pour bon nombre d'élus, le vrai pouvoir est local et le mandat parlementaire est d'abord destiné à sédimenter une carrière et consolider un fief. Mais est-ce que, d'abord, le rôle du Parlement a véritablement été renforcé après cette loi sur le non-cumul des mandats? Et par ailleurs, est-ce que la crise des gilets jaunes n'a pas démontré qu'il y avait besoin justement d'avoir des élus nationaux qui aient également des fonctions électives au niveau local?
Vous m'embarrassez. Non, vous m'embarrassez parce que je continue à le penser. Je continue à penser que une des faiblesses du Parlement français, c'est évidemment pas la seule. La faiblesse structurelle, c'est que le Parlement français est sous contrôle du gouvernement par mille moyens, même s'ils ont été assouplis en 2008. Mais c'est un des facteurs de faiblesse du Parlement français vis-à-vis de l'exécutif que les députés, je parle, les sénateurs, un autre mode d'élection, y compris parce qu'ils sont très nombreux à être élus à la proportionnelle. Une autre tribu politique. Mais les députés, je pense que une des faiblesses du système depuis 50 ans, c'est que ils savaient qu'ils étaient à l'Assemblée pour entériner la politique du gouvernement. Et donc, effectivement, et c'est une totale originalité française, par comparaison avec les pays européens, au moment avant que la loi n'entre en vigueur, on était à, je sais plus, 75% de, guillemets, cumulant, je ne vais pas dire cumulard, c'est péjoratif, mais cumulant, et souvent avec des fonctions exécutives locales importantes, président de région, président de département, maire de grande ville, enfin maire de ville, y compris de très grande ville. Quand on est maire d'une métropole, on est évidemment le roi dans sa métropole ou dans sa ville ou dans son département, et on vient deux jours par semaine à Paris pour faire le lobbying de sa région ou de sa ville ou de son département, et pour voter, comme on sait qu'il faut voter, les lois présentées pour l'essentiel par les projets de loi présentés pour l'essentiel par le gouvernement. Donc ça reste, à mon sens, un facteur de faiblesse.
Alors, mais je sens qu'il y a un mec qui arrive. Non.
Ben oui, parce que la démonstration est faite depuis deux ans que quand on change, comme le renouvellement absolument spectaculaire de l'Assemblée en 2017, renouvellement en tout cas de tête nouvelle, pas forcément de profil nouveau, mais de tête nouvelle, fait qu'on a une Assemblée de novices, avec un président novice. Et que moi je pense qu'il faudra du temps pour que l'effet bénéfique, que je continue à penser bénéfique, de la loi sur le non-cumul, puisse se mettre en œuvre. Et que, vraiment, il y a une vraie répartition des rôles, des jobs et des fonctions entre l'élu local et l'élu national.
Est-ce que sur cette question du renouvellement, d'ailleurs, il n'y a pas aussi une responsabilité des éditorialistes et des journalistes politiques? Je pense, par exemple, à ce qui est en train de se passer avec les élections européennes. Pour le coup, ce sont des têtes de liste qui sont des quasi-inconnus, Jordan Bardella, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann, et j'ai l'impression que dans les analyses politiques qui sont faites, à la fois quand ce sont des vieux routiers de la politique, on va dénoncer le fait que ce soit des vieux routiers, quand ce sont des nouveaux, on déplore le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de gens expérimentés qui soient capables de lancer véritablement la campagne des européennes. Gérard Courtois.
Il arrive que les commentateurs politiques soient trop impatients, ou n'échappent pas à leurs propres contradictions. Alors, là, en l'occurrence, il y a eu un choix quasi général qui a été fait de mettre des têtes d'affiche nouvelles. Je pense que c'est une bonne chose, personnellement. Bon, simplement, ils sont effectivement inexpérimentés, ou peu expérimentés, et derrière eux, bon, on sait bien que Jordan Bardella, il est tête de liste, mais que le leader, ou la leader de la liste, est évidemment Marine Le Pen.
Idem pour Nathalie Loiseau, d'ailleurs, hein, puisqu'on voit bien à quel point Emmanuel Macron est présent dans la campagne.
Encore de plus en plus affiché, de même pour Emmanuel Macron. Mais, bon, ils font leur classe. C'est pas très convaincant à ce stade. Du coup, et puis on voit bien Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira qui vont aller épauler Glucksmann, etc. Et tout le monde se dit, est-ce que soit François Hollande, soit Nicolas Sarkozy donnerait quand même un peu une indication de ce qui est... Donc, bon, il faut tout pour faire un monde politique. Il faut des nouveaux, et je pense qu'il faut des... Et le renouvellement est une bonne chose, à mon sens. On était dans un système tellement de reproduction à l'identique et infinie des mêmes caciques que ça a contribué à la crise de confiance politique. Toujours les mêmes têtes, etc. Donc ça, c'est... À mon sens, c'est un facteur qui permet de revivifier un peu le vivier politique. Bon, et il faut que ces gens-là fassent leurs preuves et apprennent, et y compris Macron, qui a pêché par défaut d'expérience depuis deux ans.
Eh bien, merci beaucoup, Gérard Courtois, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle La fin d'un monde, chronique politique, une sélection de chroniques politiques hebdomadaires que vous avez signées pendant une dizaine d'années pour le journal Le Monde. C'est publié, c'est une coédition, Le Monde et la collection Timpus chez Pompus, comme ça qu'on dit, chez Perrin. Politique, c'est une émission préparée chaque semaine par Antoine Dulster, réalisée par Peyre Le Grave, avec à la prise de son aujourd'hui Ludovic Auger, émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Dans un quart d'heure, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 dans Du Grain à Moudre, et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.